Prions pour que Dieu nous éclaire. Le ciel et la terre, tout passera, mais ta parole, Seigneur, demeurera. Merci d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence au message que tu nous adresses. Réveille l'attention et le bon sens de tous tes enfants regroupés en ta présence. Désaltère-nous tandis que nous buvons tes paroles. Amen. Dans la version de l'Association épiscopale liturgique des pays de langue française, nous ouvrons le livre de Josué et, du chapitre 8, nous lisons les versets 30, puis 33 à 35. Nous sommes au premier temps de l'installation du peuple de Dieu en Palestine. Après la prise de Jéricho et celle d'Aï, Josué préside une célébration de bénédiction. Josué bâtit un autel au Seigneur, Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. En face, des prêtres lévites qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur, tout Israël, ses anciens, ses scribes et ses juges, tous Israélites de souche et immigrés, se rangèrent de part et d'autre de l'arche, les uns du côté du mont Garizim, les autres du côté du mont Ébal, pour que le peuple d'Israël reçoive d'abord la bénédiction comme Moïse, serviteur du Seigneur, en avait donné l'ordre. Puis, Josué lut toutes les paroles de la loi, bénédiction et malédiction, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Tout ce que Moïse avait commandé, il n'y a pas une parole qui n'ait été lue par Josué en présence de toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes et les enfants, ainsi que les immigrés qui vivaient au milieu du peuple. Notre lecture suivante, extraite de la traduction œcuménique de la Bible, se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, les versets 6 à 23. Alors que Jésus, entouré de ses disciples, avait quitté la Judée pour la Galilée, il traversait la Samarie, aujourd'hui la partie nord de la Cisjordanie, et ayant laissé ses disciples partir en avant, il fit halte au puits de Jacob, situé près de la ville de Sichar, aujourd'hui nommée Naplouse. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arriva une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit: « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit: « Seigneur, tu n'as pas même un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le Dieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. »
Tiré de la nouvelle Bible seconde dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, notre troisième lecture nous entraîne dans trois portions de texte. D'abord, les versets 9 à 17. Pierre se trouve dans la ville de Joppé, il est environ midi. Pierre monta sur le toit en terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui en vante une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable d'une grande toile, tenue par les quatre coins, qui descendait et s'abaissa jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit, « En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit trois fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Ensuite, Pierre et ses compagnons sont appelés à se déplacer à Césarée pour répondre à l'invitation d'un officier romain nommé Corneille, un homme pieux qui adorait et craignait Dieu. C'est versets 24 à 29. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, comme vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. » Enfin, Pierre leur adresse alors le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. C'est versets 44 à 45. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur tous les païens. Amen.
Êtes-vous pur ou impur? Par curiosité, j'ai interrogé mon logiciel de recherche sur Internet et j'ai été stupéfait par le nombre de tests de pureté individuelle disponibles. Au moins 30, et encore je n'ai pas poussé ma recherche très loin. Dans le domaine de la foi, je crois qu'il ne peut pas exister de question plus déplacée ou plus perfide. Néanmoins, certaines personnes la posent, ouvertement ou non, quand elles rencontrent des gens qu'elles estiment ne pas être comme il faut. Tentons d'éclairer ce sujet ce matin. Et d'abord grâce à un rappel historique. À la mort du roi Salomon, le royaume de David éclate en deux entités constituées au sud du royaume de Juda, ayant pour capitale Jérusalem, et au nord du royaume d'Israël, avec pour capitale la ville de Samarie. En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens détruisent Samarie et mettent ainsi fin du même coup au royaume d'Israël. Beaucoup d'habitants sont déportés en exil et remplacés par des personnes immigrées des pays environnants. La population de la région se trouve ainsi mélangée. Dans les deux livres des rois, nous voyons les Juifs accuser la population de Samarie d'être composée de colons venus de Babylone ou de Syrie et convertis par les Samaritains échappés à l'exil à une religion hébraïco-païenne, c'est-à-dire pas vraiment comme il faut. Les habitants du royaume de Juda sont à leur tour déportés à Babylone en 586, revenant au pays à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, les exilés judéens, qu'on appelle maintenant des Juifs suite à leur expérience de l'exil, écartent les Samaritains des travaux de reconstruction du temple et le nom de Samaritain devient pour eux synonyme d'hérésie. Les Samaritains sont cependant fidèles à la Torah, la loi. Ils pratiquent la circoncision et le sabbat. Ils édifient un temple au mont Garizim à la fin du 4e siècle, lequel sera détruit en 108 avant Jésus-Christ. Ils reprochent aux Juifs d'avoir abandonné le symbole où... je suis perdu dans mes notes. Il reproche aux Juifs d'avoir abandonné le symbole ou le caractère sacré du mont Garizim au profit de Jérusalem. Et reproche aux Juifs d'avoir réécrit la Torah. En effet, les deux textes du Pentateuch, le Juif et le Samaritain, diffèrent sur environ 6000 points. Mais ceux-ci sont rarement importants. Donc, les Samaritains se distinguent des Juifs par des questions religieuses pour la plupart mineures, tandis que les Juifs accusent carrément leurs voisins d'impureté. Enfin, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine illustre la mauvaise opinion que les habitants de la Judée avaient toujours au moment du début de notre ère. Et Dieu dans tout ça. Il est notre Créateur et il a doté sa créature d'une intelligence, donc d'une capacité de choix, comme d'une certaine estime de lui-même, estime qui peut confiner parfois à un orgueil démesuré et l'amener à vouer à son prochain une haine féroce ou à se vautrer dans l'impureté. Et certains ont l'impression que Dieu laisse faire. Mais Dieu ne reste pas muet, loin de là. Il instruit les patriarches et les prophètes pour que ceux-ci portent une parole de commandement, certes, mais également de tolérance et de bienveillance. C'est ainsi qu'il inspire Josué, et celui-ci organise une célébration de bénédiction, incluant tant les Israéliens de souche que les immigrés vivant au milieu d'eux. Dieu montre ainsi que si le peuple d'Abraham et de Moïse reste son élu, il ne rejette pas l'étranger et n'approuve clairement pas les divisions entre les êtres humains. Il a donné la loi aux hommes pour qu'ils vivent en bonne intelligence, mais certains d'entre eux en ont fait une compétition où celui qui croit être le meilleur regarde les autres comme impurs. C'est tragique, c'est insensé, mais c'est malheureusement vrai. Puis voici venir Jésus, dont les commandements d'amour viennent accomplir ou parfaire la loi. Parmi tous ces enseignements, toutes ces rencontres, tous ces miracles, j'ai choisi un épisode très parlant sur la question de l'impureté. Jésus est assis au bord du puits. Le texte précise qu'il est la sixième heure, c'est-à-dire midi, et ce n'est pas anodin. Quand j'étais écolier et que j'allais passer mes vacances chez mes grands-parents dans la France profonde, nous n'avions pas l'eau courante. On récupérait l'eau de pluie pour se laver, pour faire la lessive ou pour arroser, mais pour l'eau de boisson, il fallait se munir de récipients et partir à pied vers le centre du village où il y avait une pompe. Et on y allait tôt le matin ou le soir après le dîner, de sorte de ne pas se faire écraser par l'ardeur du soleil quand on devait rapporter à la maison les récipients de 5 litres qui pesaient lourd au bout de mes bras de jeune garçon. Il est midi, donc, et une femme s'approche pour puiser l'eau. Jésus, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, lui demande à boire. Je ne sais pas au juste comment elle a reconnu un juif en la personne de Jésus. Mais la voici effarée parce qu'il adresse la parole à une femme et de surcroît à une femme samaritaine. Jésus ne se démonte pas. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle objecte, à juste titre, pense-t-elle, qu'il n'a pas de récipient pour puiser l'eau, mais son intuition la conduit assez rapidement à supposer que Jésus ne parle pas de l'eau du puits. La discussion prend alors une tournure plus personnelle. « Donne-moi de ton eau pour que je n'aie plus jamais soif. »« Va et reviens avec ton mari, » répond Jésus. « Je n'ai pas de mari. » Là, Jésus n'est pas dupe. Il ajoute « Tu dis vrai, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Nous y voilà. Cette femme vient au puits en plein soleil de midi pour ne rencontrer personne, pour qu'aucune autre ménagère ne vienne lui faire des reproches sur sa situation matrimoniale désordonnée et sa vie sentimentale apparemment dissolue. En effet, c'est peu de dire qu'elle ne semble pas comme il faut. Parce qu'elle coche toutes les cases pour que les villageois de Sichar la déclarent impure. Jésus aurait donc de bonnes raisons de changer de trottoir, comme on dit communément. Pourtant, il ne se soucie apparemment pas de son statut scabreux et l'invite simplement à adorer Dieu le Père, en esprit et en vérité. Après la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants, l'apôtre Pierre reçoit une vision et entend une voix lui dire « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. » Cette phrase le laisse perplexe. Et ça va lui prendre du temps pour en comprendre le sens. Qu'est-ce à dire ? Le terme grec « akatharsia », qu'on trouve fréquemment utilisé dans les épîtres du Nouveau Testament, est littéralement traduit par « impureté ». Notion qu'il faut maintenant mieux définir. Mon expérience professionnelle me suggère une signification qui m'est propre et que voici. Les chimistes disposent d'un vaste arsenal analytique leur permettant de déceler les impuretés dans la multitude de composés existants. Si l'acide oxalique, par exemple, qu'on appelle communément sel d'oseille, s'obtient aisément à une pureté d'au moins 99,6%, la potasse, en revanche, l'hydroxyde de potassium, reste toujours, quoi qu'on fasse, contaminé par 13 à 14% d'impuretés, d'autres substances qu'on ne parvient pas à éliminer et qui peuvent se révéler très gênantes pour l'usage auquel on destine cette potasse. En clair, ces impuretés n'ont rien à faire là. À mon avis, une définition possible de l'impureté est qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça donne alors à ce mot un sens très large. Et j'ose mettre en parallèle le péché et l'impureté, ce qui amplifie encore ma réflexion. J'aimerais en évoquer un aspect semblant presque bénin, presque superficiel, si je peux dire. La médisance. Voilà une transgression qui ne semble pas d'une très grande gravité. Pourtant, la tradition juive esquisse une relation avec l'homicide en disant que la médisance tue trois personnes. Celle qui la prononce, celle qui l'écoute et celle dont il est question. Ça donne à réfléchir et montre à quel point l'impureté peut être destructive. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Je vous invite vous aussi à méditer le contenu de cette phrase. À première vue, c'est ce que Pierre fait entrer dans son corps, par exemple en mangeant, qui pourrait le rendre impur. Mais au terme de sa perplexité, il se rend compte qu'au-delà des nourritures que la loi interdit, sa culture lui fait aussi voir l'étranger, l'inconnu, comme impur, et que Dieu l'exhorte à abandonner ses préjugés pour élargir sa vision du prochain, puis l'aimer comme lui-même. Voilà pourquoi il se présente à égalité avec Corneille en lui déclarant simplement « Moi aussi, je suis un être humain ». Voilà pourquoi, suivant l'exemple de Josué, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, à l'officier romain, à sa famille, à ses amis, suite de quoi le Saint-Esprit tombera même sur les païens. C'est ce miraculeux message du pardon qui nous pousse à quitter notre sentiment d'enfermement dans le cercle vicieux de l'impureté. Suivant l'exemple de Dieu qui a stimulé Josué, puis Pierre, je vous propose vous aussi de renoncer à la suspicion d'impureté provoquant la division des humains, et je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous tomber dessus. Je vous exhorte à réaliser que, puisque Dieu vous a purifié de vos péchés, vous êtes purs. Cela répond de façon décisive et lumineuse à la question du début. Et toutes celles et tous ceux qui ont reçu le pardon à côté de vous tout à l'heure sont purs également. Grâce à ce changement d'optique, on vit à fond la communion chrétienne. Mais surtout, on expérimente de façon inédite la coexistence avec sa famille, ses amis, ses collègues, mais aussi avec des gens qu'on croise dans la rue et des sans-logis ou des immigrés. Qui vous dit que Dieu ne les voit pas purs, eux aussi? Ceux dont vous ne savez rien, ceux qui vous sont étrangers, inconnus, eux non plus, ne les considérez pas comme impurs. Ça me rappelle un mot d'enfant rempli de candeur et d'innocence. C'est un prédicateur indien de Calcutta, de passage en Suisse, qui vient sonner à la porte d'un pasteur. Et le fils de la famille se précipite pour ouvrir, regarde le personnage et retourne en courant vers son papa. « Papa, papa, il y a un monsieur à la porte, on dirait que c'est Jésus. » Notre société mélangée, à l'exemple de celle de la Samarie, n'est pas impure. Alors ne changez pas de trottoir. Changez plutôt de manière de voir les choses. Les savants diraient changer de paradigme. Ne détournez pas le regard. Tendez la main. Adressez une parole, un salut, comme si c'était Jésus lui-même debout en face de vous. Soyez vous aussi simplement un être humain. Remettez les choses à leur place. Vous pourrez affirmer comme Pierre, « Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Et vous sortirez de ce lieu de culte non seulement avec le sourire que procure le Saint-Esprit quand il vous tombe dessus, non seulement avec la paix de Dieu dans votre cœur, mais avec la même ouverture que celle de Jésus vis-à-vis de la Samaritaine, un œil nouveau à poser sur votre prochain. Amen.